Bonsoir, l'écoute de Radio Panique sur 105.4 à Bruxelles ou sur Radio Air Libre en rediffusion sur 87.7 toujours à Bruxelles ou sur une radio amie quelque part dans le monde qui nous aura fait le plaisir de rediffuser cette émission. Cette émission, c'est une première, c'est Radio No Border. No Border, vous le savez ou vous le savez pas, c'est un réseau de militants qui lutte pour la libre circulation des personnes dans le monde et contre la militarisation des frontières. C'est un réseau qui se concrétise par la tenue de camps autogérés et un peu partout dans le monde, et ben il se trouve que là maintenant c'est le tour de Bruxelles, c'est-à-dire en septembre, le 27 septembre, du 27 septembre au 3 octobre, il va y avoir un camp No Border à Bruxelles, et on est quatre à préparer ce camp, et on va essayer de vous y intéresser. J'ai oublié de dire que les camps les plus récents qu'il y a eu se sont tenus, peut-être vous l'avez su, à Gatwick, à Lesvos, en Grèce, Gatwick en Angleterre et Calais en France. Et c'est un peu à Calais que ça a commencé, l'idée de faire un camp à Bruxelles. Et Serge, qui est avec nous, y était. Il y a aussi Hans qui était là-bas et qui va nous en parler. Axel est avec nous aussi, moi c'est Patrick. Et je passe sans tarder la parole à Hans, en fait, qui va peut-être nous parler un peu de Calais et nous dire un peu précisément à quoi ça ressemble, Hans, les camps No Border.
Ben, le camp No Border à Calais était un peu différent que le camp probablement à Bruxelles, dans le sens que c'était sur un grand terrain au bord de la ville de Calais, au bord des banlieues. Donc c'était un terrain avec des plaines, des prairies, et puis aussi avec des petits bois à gauche et à droite. Donc c'était idéal, en fait, pour mettre sur place un camp avec un camping, avec toute l'infrastructure, les cuisines, les grandes tentes, l'accueil, etc. Il y avait aussi un camp d'Iraniens même qui était déjà là avant, dans un des petits bois. Voilà, donc ça c'était le long d'une l'autoroute qui va vers tout droit, en fait, vers les bateaux, vers les ferries où passent tous les camions qui vont et qui viennent de Calais. Voilà, le camp, ça a duré une semaine, comme ça serait le cas ici à Bruxelles, et c'était surtout des ateliers, des rencontres, des débats sur le camp même, sur le site même. Et puis il y avait aussi des gens qui sortaient en ville pour mener des petites actions, pour aller faire la publicité pour la manifestation du samedi, pour discuter avec les gens au marché. Et puisque, en fait, à ce moment-là, Calais était plus ou moins une ville occupée, ça ramenait vraiment la police à l'intérieur de la ville et les CRS, donc qui en plein rue commerciale, s'attaquaient parfois à une vingtaine ou une trentaine d'activistes qui essayaient de distribuer les tracts. Et quoique les actions duraient donc jamais plus que 5 ou 10 minutes, ça ramenait quand même cette répression et cette visible à l'intérieur de la ville. Bon, et puis le samedi, il y avait une grande manifestation, enfin grande, dans des situations assez difficiles. Il faisait très chaud, c'était très fliqué. Ils nous ont fait promener un peu dans les champs, en fait. Il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. La répression était très forte.
C'est la France, quoi.
C'est la France.
Et c'est Calais aussi. Calais, c'est quand même un... Parce que les camps No Border, j'ai cité quelques noms, effectivement, bon, pour militer pour la libre circulation des personnes et contre la militarisation des frontières, on choisit forcément des lieux qui sont un peu qui sont des frontières, en l'occurrence. La Calais, c'est une frontière extrêmement militarisée. Gatwick, je pense que c'est par rapport à la construction d'un centre fermé. On est toujours dans des lieux qui symbolisent vraiment soit des nœuds migratoires où la police intervient. Calais, c'est quand même un lieu particulier. Enfin, je sais pas si tu peux.
Oui, tout à fait. Parler. Donc il y a je ne sais pas combien de camions, de tonnes de marchandises qui passent à travers le port vers l'Angleterre ou en provenance de l'Angleterre. Et aussi il y a le Eurostar, donc le tunnel qui va en dessous de la Manche. Et puis, il y a énormément, des centaines de migrants qui sont là en permanence, qui essayent de passer de l'autre côté. Et donc, soit parfois ils se cachent en dessous des camions, parfois à l'intérieur de camions citernes, parfois ils essayent de se cacher en dessous du train, l'Eurostar, de toute manière possible. Ils essayent de passer, donc, et donc ça amène exactement cette, cette grande militarisation, disons, ou presque de, du port, avec une énorme présence de la police et de la répression. Mmh. Et dans ce sens-là, quoi que les autres Canal Borders, c'était surtout aux frontières de l'Europe.
Oui.
Et Calais, c'est une frontière intérieure, mais c'est surtout un lieu avec énormément de passages et qui met en valeur, qui est visible, en fait, les migrants qui font des camps, qui traînent dans les rues, etc.
Et est-ce que toi, Hans, tu étais au moment à Calais où s'est décidé l'idée de faire un camp à Bruxelles?
Oui, mais c'était encore informel. Donc, disons que il y avait plusieurs Belges qui étaient là. Et on discutait déjà, oui, on aimerait bien faire ça à Bruxelles. Bon, à Bruxelles, est-ce que on n'était pas vraiment sûr si c'était une bonne idée dans le sens qu'il n'y a pas de frontière à Bruxelles. Il y a une grande population sans papier à Bruxelles. Il y a une grande histoire de lutte des sans papier à Bruxelles. Et Bruxelles est aussi la capitale de l'Europe où on prend toutes les décisions où la politique migratoire de l'Europe est développée. Et donc, il y a énormément de personnes à qui s'adresser. En tout cas, à Bruxelles, et voilà.
Axel, tu voulais dire un truc, oui.
Non, je voulais faire un point pour dire pourquoi c'est Calais et qu'ils vont en Angleterre. Ça, je l'ai déjà dit à la radio et deux, trois, mais je tiens à le répéter parce que dès qu'on est rentré sur le sol anglais, ou britannique si on veut, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré, on peut rester en Angleterre pendant tout le temps parce qu'il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de on peut rester et on peut avoir le help assistance, c'est-à-dire la sécurité sociale, et en plus les Afghans et beaucoup sont de langue anglaise.
Oui.
Et c'est le problème que la plupart des gens, quand on rentre en Angleterre, on peut faire passer sa vie. Bon, on peut plus ressortir et rentrer, mais on peut rester là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a plein de migrants qui, bon, il y a eu des Indiens, de tout, voilà.
Est-ce que peut-être on va écouter un extrait pour voir un peu aussi comment la politique de militarisation des frontières touche aussi la Belgique, évidemment, c'est-à-dire à travers cette plaie européenne qui s'appelle les centres fermés en Belgique.
La possibilité d'enfermer un étranger,
Mathieu Bietlou,
un étranger indésirable ou un étranger qu'on souhaite éloigner, elle existe depuis donc en Belgique, depuis l'existence de la Belgique. Parmi les premières mesures qui ont été prises par le gouvernement provisoire, il y avait déjà la possibilité d'expulser et donc d'enfermer au préalable un étranger. Mais ça a très peu été mis en pratique, et donc on n'a pas jugé bon de créer à cette époque des camps, des centres ou que sais-je pour mettre en pratique ces dispositions. Ce n'est que dans les années 80 que sont apparus les centres fermés. Alors on ne va pas faire toute l'histoire de l'immigration en Belgique. Mais on peut dire que ce qui a changé dans les années 80, enfin les années 80 ont été la concrétisation de changements qui ont eu lieu un peu avant, dans les années 70. C'est d'une part, on le sait bien, la fin de l'immigration de travail. Donc en 74, on arrête toute possibilité pour la main-d'œuvre étrangère de venir en Belgique afin d'y travailler. Les seules voies pour encore entrer en Belgique pour un migrant sont le regroupement familial, qu'on met en place plus ou moins aussi à cette époque-là, et le séjour limité aux études. Pour les autres migrants, il n'y a plus moyen de rentrer en Belgique. Alors il y a une troisième possibilité, mais qu'on a toujours mis à part parce que ce n'est pas considéré comme de la migration, c'est l'asile, qui est lui non pas une possibilité, une voie de migration, mais qui est un droit international consacré par la Convention de Genève et qui a toujours été mis à part de l'immigration. Avec les années 70, donc, il n'y a plus d'immigration et qu'est-ce qu'on constate quelques années après, donc dans les années 80, c'est que il y a une augmentation phénoménale des demandes d'asile, qui s'explique à la fois par des changements au niveau mondial, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui font qu'il y a il y a plus de raisons et plus de moyens aussi de fuir son pays loin, donc de changer de continent. Mais aussi, justement, parce que, il faut bien dire ce qui est, vu qu'il n'y a plus d'autres moyens de rentrer en Belgique, l'asile est devenu la chance qu'ont tenté la plupart des gens qui voulaient entrer en Belgique. Et donc, c'est parce que la demande d'asile commence à poser problème. Avant ça, je l'ai dit, elle ne posait pas problème. C'était un droit, on se faisait une fierté de le respecter. Mais à partir du moment où ça pose problème, quantitativement, je l'ai raté.
Quantitativement.
Ça commence alors à poser qualitativement problème aussi, puisque tout le discours qui se développe à ce moment-là, c'est tous ces gens qui se poussent à nos portes pour demander l'asile sont des faux demandeurs d'asile. Le fameux discours sur les faux et les vrais. Et donc, on met en place toute une série de mesures pour trier les vrais et les faux. Notamment, avant ça, vu que l'asile était un droit imprescriptible, la personne qui arrivait en Belgique pour demander l'asile, on lui laissait accéder aux institutions, on la laissait rentrer en Belgique pour qu'elle puisse demander l'asile. Donc, elle ne devait pas remplir toute une série de conditions qu'on demande aux autres personnes qui passent la frontière, des conditions de visa, de moyens d'existence, etc. La personne qui demandait l'asile n'avait pas de visa ou n'avait pas les autres conditions, mais disait c'est normal que je les ai pas puisque je viens demander l'asile. On la laissait rentrer. À partir du moment où il y a cette phobie du vrai et du faux, on dit c'est plus possible. Les personnes qui arrivent à la frontière et qui n'ont pas les conditions et qui disent je n'ai pas les conditions parce que je demande l'asile, vu que c'est peut-être des faux, on ne va plus les laisser rentrer. Et donc, en 87, on change la loi et on dit, cette exception pour les demandeurs d'asile, elle est supprimée. Si le demandeur d'asile n'a pas toutes les conditions, il ne peut pas rentrer dans le territoire tant qu'on n'a pas jugé sa demande recevable. Ça, c'est le changement de loi qui a lieu en 87. Et on change la loi sans réfléchir aux conséquences. Du coup, les mois qui ont suivi, il y a une foule de gens qui sont bloqués à l'aéroport, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer, et qui attendent de voir si leur demande est recevable. Et ils sont bloqués à l'aéroport et on ne sait pas quoi en faire. Eh bien, c'est comme ça qu'on invente le premier centre fermé, qui est institué donc à l'aéroport de Zaventem en 88.
Le 127.
Il est le 127 qui est mis en place dans l'aéroport. C'est vraiment un baraquement. C'est tout sauf un lieu qui respecte des conditions sanitaires et d'hygiène. C'est un lieu qui est improvisé en 88. Et c'est intéressant aussi à souligner, quand on voit l'étude de cette institutionnalisation des centres fermés, c'est que donc il y a un changement de loi en 87 qui crée une situation qui nécessite le centre fermé, mais sans avoir prévu la possibilité de centre fermé dans la loi. En 88, on crée le centre fermé, et ce n'est qu'en 91 qu'on réforme une nouvelle fois la loi pour entériner l'existence de centres qui est là depuis 3 ans sans fondement légal. Et ça a été comme ça tout le temps dans toutes les réformes. J'imagine que vous savez que la loi sur les étrangers est une des lois qui a été les plus révisées. On en a plus de 20 réformes depuis 1980. Et toutes les réformes qui ont concerné la question des centres fermés, de l'enfermement, c'est chaque fois des réformes qui viennent après coup entériner une situation mise en place par l'administration ou par le ministère de l'Intérieur, mais sans passer par la voie législative. Donc dans un premier temps, c'est juste pour ces demandeurs d'asile qui arrivent à l'aéroport et qui ne peuvent plus rentrer tant que leur demande n'est pas jugée recevable. Et petit à petit, on a élargi. La loi de 93 élargit. On décide que c'est plus seulement les demandeurs d'asile qui arrivent à l'aéroport, mais c'est aussi ceux qui font leur demande d'asile sur le territoire sans avoir une série de conditions. On décide qu'on va aussi mettre dans ces centres les personnes en séjour irrégulier qui se font donc qui est peut-être arrivé régulièrement, mais qui après entrent dans l'irrégularité et se font choper sur le territoire. Avant, on les mettait en prison. Il y a en 92 des négociations entre la justice et l'intérieur en disant il n'y a plus de place dans les prisons, donc on décide de mettre ces personnes-là aussi dans les centres fermés. Donc ça, c'est en 93. En 96, il y a en plus la convention Schengen qui entre en application et il y a toute une série d'obligations européennes qui fait qu'on peut ou qu'on doit, selon la façon dont on dit des choses, enfermer encore plus de monde. Et donc, en 96, on élargit encore le nombre de personnes, le type d'étrangers qu'on peut enfermer. On élargit aussi, il y a tout un débat sur la durée de détention qui a fortement varié en 96, elle est arrivée à son maximum, c'est-à-dire illimitée. Et donc, à chaque réforme, évidemment, on construit alors aussi des centres pour évidemment mettre en application ces politiques. Il y a maintenant donc en Belgique 6 centres fermés. On dit 6 centres fermés, c'est un terme générique, mais le terme officiel, le centre fermé n'apparaît pas dans les textes légaux, et il y a en fait des petites différences, mais que je vais juste vous citer et pour vous dire tout de suite qu'elles sont pas si effectives que ça dans la pratique. C'est que donc il y a le centre 127 qui est un centre de transit, donc pour les personnes qui arrivent à l'aéroport et le temps théoriquement qu'on étudie la recevabilité de leur demande. Il y a le centre INAD pour passagers inadmissibles qui est un centre très particulier auquel aucune ONG n'a accès. On ne sait pas très bien ce qui s'y passe. C'est un centre normalement où les gens ne restent pas très longtemps puisque ce sont ceux qui arrivent à l'aéroport sans les documents, qui ne font pas de demande d'asile et qui repartent par l'avion suivant, quoi. Donc là, il n'y a même pas de procédure administrative. C'est on les parque là le temps qu'il y a un nouvel avion qui repart vers leur pays. Il y a ensuite le centre 127 bis, qui lui est un centre de rapatriement. Donc théoriquement, ce sont les demandeurs d'asile déboutés en fin de procédure qui sont de nouveau parqués là en attente de leur éloignement. Et puis il y a trois centres, donc c'est les trois premiers que j'ai cités sont dans l'enceinte de l'aéroport. Il y a trois centres sur le territoire qui sont, eux, des centres pour illégaux. Le centre pour illégaux de Votem, le centre pour illégaux de Merksplas et le centre pour illégaux de Bruges. Et donc théoriquement, on voit qu'il y a des centres pour les demandeurs d'asile en début de procédure, d'autres en fin, d'autres pour les personnes irrégulières, mais en pratique, et c'est vraiment pour des raisons pratiques, parce qu'il n'y a pas assez de place dans tel centre, parce que il y a une émeute dans tel autre centre et on décide de diviser le mouvement en éparpillant les gens. Donc finalement, dans tous les centres fermés, on retrouve tous les profils, des demandeurs d'asile en début de procédure, des demandeurs d'asile frontières, des demandeurs d'asile territoire, des demandeurs d'asile déboutés et des personnes en séjour irrégulier.
Mais en fait, ça a commencé en 1997, très exactement, au moment où on a appris la construction du centre fermé de Votem. Alors déjà, certains d'entre nous avaient été sensibilisés à la question et s'étaient rendus autour du centre 127 bis. Et donc, quand on a appris qu'un centre fermé allait s'ouvrir à Liège, on a décidé tout de suite de constituer le mouvement le plus large possible.
D'accord, et donc vous avez assisté à toute la construction de ce centre fermé.
Oui, on a assisté à la construction, il y a eu pas mal d'actions pendant la construction, il y a eu notamment une occupation, des manifestations autour du centre aussi, et voilà, malheureusement ce centre s'est ouvert, et depuis qu'il est ouvert, notre collectif a une présence bi-hebdomadaire autour du centre, tous les mercredis, tous les samedis.
Voilà, c'était Mathieu Bietlo, qui est chercheur, qu'on avait interrogé ici à Radio Panique pendant une émission qu'on avait consacrée au centre fermé. Cette émission, donc, on pourra peut-être la rediffuser d'ailleurs parce que elle est intéressante. Elle a qu'un défaut, c'est qu'elle date un petit peu parce que donc on expliquait là qu'il y a 6 centres fermés en Belgique. Il va bientôt y en avoir 7. Il y en a un qui est en construction. La construction des centres fermés, c'est une des choses donc qui a jalonné la montée en puissance de cette politique protectionniste européenne telle qu'on l'a connue en Belgique. C'est pas la seule chose qu'on a vu apparaître. On a vu aussi les rafles, on a vu aussi apparaître les expulsions musclées qui ont donné lieu à des assassinats comme celui de Semira Adamou qui a beaucoup marqué les esprits ici en Belgique. J'ai oublié de dire que on a aussi entendu une dame juste après qui s'appelle France, je pense que c'est France Arrête, qui fait partie du CRACP, et le CRACP donc c'est un des nombreux mouvements, on pourrait peut-être en parler tout à l'heure, de résistance à la construction des camps. Celui-là c'était autour du centre fermé de Votem dont on va aussi reparler tout à l'heure parce qu'il y a eu une manifestation il y a pas très longtemps autour de ce centre. Et donc France Arrête s'expliquait donc le CRACP s'est vraiment formé autour de la construction du centre de Votem. Ce qu'explique bien Mathieu, c'est que donc ça a commencé avant le grand tournant des années 80 et la politique de libéralisation économique où on a vu simultanément donc les frontières économiques s'effriter et en même temps les frontières migratoires se renforcer. En Belgique, le premier mouvement de résistance à la militarisation des frontières, frontières et à cette politique de chasse aux migrants. On peut le dater du début des années 70. C'est une grève de la faim qui a eu lieu dans le milieu étudiant. C'est des étudiants qui protestaient contre l'expulsion d'étudiants étrangers. Et ça a été vraiment le premier mouvement vraiment lié à cette problématique dont on se souvienne. Il y en a certainement eu d'autres qui ont peut-être pas autant marqué les esprits. Il y a eu une grève aussi des travailleurs sans papier au milieu des années 70 qui elle aussi a pris la forme d'une grève de la faim. Et là, ça a quand même très vite mobilisé des associations, le milieu syndical aussi, et c'est une grève de la faim qui sonnait rue d'Arscott et qui a donné lieu à une première régularisation. En gros, il y a eu trois régularisations dans cette histoire. Une donc à ce moment-là, une autre en 99, je pense. Les régularisations, c'est toujours l'objectif évidemment des mouvements de soutien ou de directement des mouvements de sans-papiers. Mais évidemment, ça a un effet, j'allais dire pervers. C'est-à-dire qu'à la fois, ça permet de sortir de la situation de précarité où sont les sans-papiers. Un certain nombre, on a jamais vu de régularisation vraiment globale en Belgique, c'est toujours sur des critères qui sont jamais permanents, mais très très circonstanciés. Et ça a aussi cet effet que le mouvement qui prend de l'ampleur dans les périodes entre les régularisations, eh bien retombe totalement. Donc on peut dire qu'en ce moment on est quand même dans une période où on est en attente des résultats de ce processus de régularisation qui a traîné pendant un an à cause de complications des complications politiques que nous connaissons. Et pour citer des jalons aussi dans ce mouvement de résistance et de soutien aux sans-papiers, il faut noter que en Belgique, il y a eu des expériences d'action directe assez marquantes, comme le groupe le CCL CCLE,
collectif contre les expulsions,
qui a organisé une évasion d'un centre fermé en 97. Et très très vite après est venu l'assassinat de Semira Adamou en 98, qui était soutenu par le CCLE, et suite à quoi le CCLE a été très très réprimé et a fini par disparaître. On peut parler aussi d'une expérience assez originale, enfin, et intéressante en Belgique, c'est l'Assemblée des voisins, qui s'est constituée très très vite autour de rafles qui ont eu lieu à peu près dans cette même période. Et puis il y a une expérience qui est plus récente et qui est assez intéressante, c'est l'expérience d'autogestion des sans-papiers, qui est venue suite aux marches européennes en 2004 et qui a pris le nom d'UDEP. Ça dessine à grands traits cet historique des luttes qu'on pourra retrouver si ça vous intéresse sur le site de No Border. On a un site internet pour préparer donc ce camp No Border qui va se tenir du 27 septembre au 3 octobre à Bruxelles. L'adresse, c'est noborderbxl.eu.org, mais je la répéterai plusieurs fois pendant l'émission. Pour faire bien, on va peut-être passer un petit jingle. Ça ferait bien un jingle, mais c'est vrai qu'on l'a jamais essayé, alors je sais pas ce que ça va donner.
Culture of amnesia. How do you get people to create their culture? Well, you pull away all sorts of memory and see what happens, which is kind of what has occurred with this late 20th century generation.
Join the No Border Camp in Brussels. 7 days of action, information, movies, debates on migration and migration policy from the 25th of September till the 3rd of October 2010. Check our website www.noborderbxl.eu.org.
Oui, on vient de le recevoir.
Ça la pêche, donc voilà, c'est bien. C'est une des contributions, donc chacun contribue au groupe média.
Oui, ça vient d'Amsterdam, de quelqu'un de Radio Patepou à Amsterdam.
Ok. On a parlé de la politique de chasse aux migrants telle qu'elle s'est installée à travers les centres fermés en Belgique. C'est Mathieu Biettelot qui nous rappelait ça. Et il faut voir aussi que évidemment Bruxelles fait pas exception à la politique européenne en matière d'immigration. Et à ce propos-là, on voulait vous proposer d'écouter l'extrait d'une conférence qui s'est tenue sur Frontex. Alors Frontex, c'est pas une marque de trucs à récurer, c'est le nom du système mis en place par les pays de l'Union européenne pour organiser la militarisation et la protection de leurs frontières. Et voilà, on va écouter cette conférence, c'est une conférence qui s'est tenue et on va écouter Selma qui fait partie du Progress Lawyers Network et ben voilà, ça fait 20 minutes mais je pense que c'est assez intéressant.
En parlant un peu autour de nous et alors qu'on travaille essentiellement en droit des étrangers, que personne ne savait exactement ce qu'était Frontex, on en avait entendu parler mais ce que c'était clairement, c'était évident pour personne et donc on s'est dit, même si nous qui sommes avocats ou dans l'associatif spécialisé en droit des étrangers, on ne sait pas ce que c'est qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'information et la première chose à faire pour lutter contre ce qui se passe, c'est de s'informer le plus possible. Alors on s'est un peu renseigné sur ce qu'était Frontex et c'est assez inquiétant quand on vous allez le voir au cours du débat, ce qui se passe est assez inquiétant. Donc Frontex, c'est l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres. Le but est d'empêcher l'immigration illégale. Alors, on le sait, des centaines, voire des milliers de migrants meurent noyés en mer Méditerranée, mais également, c'est très peu su, mais dans les fleuves de l'Est de l'Europe. Et donc, personne n'a de chiffre sur ces centaines de morts. Et ça ne semble émouvoir personne. Par contre, on a des chiffres et la Commission européenne félicite Frontex pour son résultat. Je vous lis la déclaration qui a été faite par la Commission européenne. Il dit « On ne saurait synthétiser les résultats des opérations conjointes par de simples chiffres. Ceci offre d'autres bénéfices. Alors, quels sont les bénéfices des opérations conjointes de Frontex? Eh bien, c'est l'échange des meilleures pratiques et d'informations entre les États membres et l'intensification de la coopération quotidienne entre les services nationaux de contrôle aux frontières. Les résultats mesurables obtenus jusqu'à présent sont toutefois impressionnants. Plus de 53 000 personnes ont été appréhendées ou interdites d'entrer aux frontières au cours de ces opérations qui ont permis de détecter, attention, 2900 documents de voyage faux ou falsifiés et d'arrêter 58 passeurs. Alors, on essaie de nous faire croire que Frontex a pour but de lutter contre le trafic d'êtres humains. On aime bien le trafic d'êtres humains, ça sert toujours d'excuse pour empêcher, mais quand on voit que on a empêché 53 000 personnes d'entrer en Europe et qu'on a arrêté 58 passeurs, on peut se demander si le but est vraiment d'arrêter les passeurs, parce que si c'est ça le but, c'est plutôt raté et il n'y a pas de quoi les féliciter. Alors sur ces 53 000 personnes, lors de cette déclaration, il n'y a aucun... Il n'y a personne qui a posé la question, tiens, combien d'entre eux étaient vivants ou morts? Est-ce que parmi eux, il y avait des demandeurs d'asile, des réfugiés? Est-ce qu'il y avait des enfants, des mineurs non accompagnés? Non, rien. La question, c'est le chiffre. Alors, maintenant, il y a assez bien un consensus au niveau des associations, de la société civile, pour dire que Frontex ne respecte pas des principes élémentaires de droits de l'homme. Et la solution qui serait proposée, c'est de donner un petit budget supplémentaire, on reparlera de leur budget, un petit budget supplémentaire pour que Frontex puisse former aux principes de non-refoulement. Alors, ça a l'air gentil comme ça, mais comment on peut leur demander de former au principe de non-refoulement alors que l'essence de leur travail, le but de leur existence est de refouler les gens? La base légale de l'existence de Frontex, c'est un règlement européen. C'est une organisation, et là je cite Jean Ziegler, est une organisation militaire semi-clandestine. Alors pourquoi une organisation militaire? Eh bien, quand on voit le schéma d'organisation, et là je vous renvoie à leur site, ils ont un site dans lequel ils sont assez honnêtes sur leur manière de travailler, et c'est assez effrayant, on voit qu'ils ont une hiérarchie qui est de type militaire. Le chef de Frontex s'appelle Ilkka Laitinen, il est général, il était colonel, il est passé général, donc c'est quelqu'un de, qui fait partie de l'armée. Et alors Frontex a quelque chose qui s'appelle CRAT, C-R-A-T-E, et qui est son arsenal. Alors, c'est l'inventaire central des équipements techniques disponibles. Jusqu'ici, il s'agissait de 18 avions, 20 hélicoptères, 105 navires de guerre. Ce sont du matériel militaire. Alors, ce qui est assez inquiétant, c'est que l'article 15 du règlement européen qui crée Frontex prévoit que l'agence est indépendante du pouvoir politique en ce qui concerne les questions techniques. Alors, derrière le mot « technique », on se dit « bah oui ». S'ils sont indépendants que pour les questions techniques, c'est normal, on ne va pas aller se mêler. Mais CRAT, donc l'arsenal militaire, c'est l'inventaire central des équipements techniques. Donc, dès qu'ils utilisent des équipements de type militaire, ils sont totalement indépendants. Et la législation européenne en préparation va encore plus loin, puisque la nouvelle commissaire européenne à la sécurité intérieure, qui est une Suédoise, qui s'appelle Cecilia Malmström, donc elle entame son mandat et elle vient de déclarer qu'il faut renforcer les capacités opérationnelles de Frontex, et pour ça, il faudrait que Frontex dispose de ses propres ressources humanitaires et matérielles, et par ressources matérielles, on entend des vaisseaux et des hélicoptères. Donc là, on peut vraiment se poser la question, et c'est une question que moi je me pose, est-ce qu'il s'agit d'une milice? Parce que la définition d'une milice, c'est une armée qui est indépendante. Indépendante de tout pouvoir, normalement une armée dépend d'un ministre de la Défense, qui lui fait partie de l'exécutif et répond devant le Parlement. Le Parlement qui est la représentation de l'électorat. C'est comme ça que l'on réfléchit en termes de séparation des pouvoirs. Or là, nous avons une force armée qui est indépendante, qui dépend de son général, qui répond de temps en temps à quelques questions, mais surtout des questions de chiffres devant la Commission, et qui ne répond devant aucun politique. Aucun politique n'est responsable de ce que Frontex fait ou ne fait pas. Alors, ce qui est encore plus inquiétant, c'est l'article 29 qui est relatif au budget de l'agence, et qui prévoit qu'en plus des subventions européennes, Frontex peut percevoir, je cite, des redevances perçues en rémunération de services. Alors, je n'ai pas trouvé d'exemple encore de redevances perçues en rémunération de services, mais là, ça devient même la définition d'un mercenaire. Une armée qui se fait payer en rémunération de ses services, ça commence à devenir très inquiétant. Et il y a des propositions, pour le moment c'est encore uniquement des propositions, mais pour faire intervenir Frontex dans certains problèmes intérieurs à l'Europe. Et alors là, on parle, en général, quand on parle en droit des étrangers, on parle de trafic des êtres humains pour justifier tout, et en droit intérieur, on parle des hooligans. Et il donne l'exemple d'un match de foot, dans lequel il y aurait des hooligans de toute l'Europe qui voudraient venir, et pour lesquels il faudrait faire intervenir Frontex. Alors, tous les militants parmi nous dans la salle pensent directement à oui, ou bien le prochain contre-sommet européen, ou bien le... Parce que, en général, quand toute la police de l'Europe se réunit contre des militants, c'est à Copenhague ou dans les contre-sommets, ou contre les camps no border, mais rarement contre les hooligans, qui, à mon sens, ne sont même pas tellement nombreux. Alors, Frontex, en outre de cette indépendance technique, a également un pouvoir politique, puisque, et alors Hélène Flotte en parlera mieux que moi, mais il négocie avec des pays tiers des réadmissions, enfin toutes sortes, comme ce qu'ils ont négocié en Libye. Et alors, là de nouveau, l'euphémisme technique. La mission en Libye s'appelle mission technique en Libye. Et donc, comme c'est technique, ils sont indépendants. Alors, par rapport aux obligations internationales des États, c'est quand même embêtant, parce que les États européens ont tous signé la Convention de Genève, et donc les gens ont droit à l'asile. Alors, on prend trois exemples, les Irakiens, les Afghans, les Somaliens, ce sont des gens qui ont quelques problèmes dans leur pays, on est quand même d'accord, il y a même des pays qui leur reconnaissent un assez large pourcentage de reconnaissance de leur droit à l'asile. Et pour avoir droit à introduire une demande d'asile, il faut d'abord avoir échappé à Frontex, parce qu'aucun Irakien, Afghan ou Somalien n'arrive en Europe parachuté comme ça. Ils arrivent tous par les frontières extérieures. Et donc, ils prennent des bateaux, ils essayent de rentrer, parce qu'il n'y a aucun moyen d'entrer en Europe à part l'entrée clandestine. Et donc, on est si fiers de ces 53 000 personnes qu'on a réussi à repousser en les appelant des migrants clandestins, mais ce même migrant clandestin peut devenir un réfugié politique reconnu si jamais il s'est échappé à Frontex et introduit sa demande d'asile et se voir protégé. Idem pour la protection subsidiaire. Dans ces bateaux, il y a des gens qui devraient avoir une protection contre les violences généralisées qui sont faites dans les pays en guerre et qui ne la reçoivent pas, puisque à Frontex, son but, c'est de repousser les gens et pas de s'interroger sur pourquoi ils sont là. Un troisième droit qui semble très malmené par l'existence même de Frontex, c'est le droit de quitter son propre pays. Donc il y a eu des opérations, je pense qu'on en parlera, dans les eaux territoriales sénégalaises et mauritaniennes, dans lesquelles Frontex était là dans les eaux territoriales pour repousser les migrants, et il faisait ces opérations conjointement avec les autorités mauritaniennes et sénégalaises. Alors, la Mauritanie, c'est pas une championne des droits de l'homme, hein. Donc des gens essayent de fuir la Mauritanie et l'Europe, via Frontex, fait une opération conjointe avec les autorités mauritaniennes pour repousser ces gens vers la Mauritanie et donc les rendre à l'État persécuteur. Ça viole le droit de quitter son propre pays qui est contenu dans l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais ça viole aussi l'article 33 de la Convention de Genève, puisque c'est vraiment un cas typique de refoulement. Or, quelqu'un qui demande l'asile, on ne peut pas le refouler tant que sa demande d'asile n'a pas été examinée. Alors, Frontex viole allègrement les droits de l'enfant, puisque dans les images qu'on peut parfois voir de ces bateaux, on peut souvent constater que les jeunes qui sont sur ces bateaux ont l'air très jeunes. Beaucoup sont des mineurs non accompagnés et pourtant aucun... Et en fait, ils ne font aucune différence qu'on soit un mineur accompagné ou qu'on soit majeur. Alors, une nouvelle question qui se pose quant à Frontex, c'est la question des charters. Donc, le nombre de migrants expulsés par des vols collectifs, il est en train d'exploser. Et Frontex est chargé, donc ils ne sont plus uniquement chargés d'empêcher l'entrée, ils sont aussi chargés des expulsions. Et alors là, on a un problème avec le protocole 11 de la Convention, l'article 4, qui dit que les expulsions collectives sont interdites. Or, par définition, une expulsion organisée par Frontex ne peut être que collective. D'autre part, il y a aussi toute la question de l'usage de la force. Une expulsion forcée, par définition, c'est une expulsion dans laquelle est fait usage de la force. Alors, chaque législation nationale a des textes qui expliquent l'usage de la force, dans quel cadre on peut le faire, qu'est-ce qu'un usage de la force proportionnée, disproportionnée, etc. Or là, on est hors cadre, puisque les agents de Frontex sont des agents de plusieurs pays différents, et donc on ne sait pas du tout quelle législation sur l'usage de la force s'applique lors de ces expulsions. Je voudrais souligner que le fait d'avoir une législation, enfin, moi je suis contre l'usage de la force en matière de, je suis contre l'expulsion forcée tout court, parce que le fait d'avoir un texte qui réglemente l'usage de la force n'est pas suffisant que pour le sauvegarder. Nous ne devons pas oublier que le coussin qui a étouffé Semira Adamo était prévu par un texte. Donc le fait d'avoir une législation, ça ne suffit pas à protéger les migrants. Alors se pose la question, face à toutes ces violations du contrôle politique et citoyen, et là on constate qu'il n'y en a pas. Je cite ici une dame qui s'appelle Sarah Casella Colombo, qui est doctorante et qui a écrit qui a soutenu une thèse qui s'appelle « Frontex, rendre crédibles les politiques des frontières de l'Union européenne » et qui dit « Frontex rend visible la dépolitisation de la question du contrôle des frontières extérieures en focalisant les enjeux sur des questions techniques. » On a complètement dépolitisé la question. Et dès lors, alors que par exemple créer une armée européenne, ça soulève toutes sortes de questions, les pays ne sont pas d'accord entre eux, eh bien on a créé une armée européenne contre les migrants, en appelant sa technique et en leur donnant une indépendance technique, et du coup, il n'y a plus personne qui semble s'inquiéter du fait qu'il n'y a aucun contrôle. Là où c'est très dangereux, c'est que l'agence a un pouvoir d'initiative. C'est elle qui fait les analyses de risque. Et donc elle dit, oh, cette zone-là est très 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 risquée. Alors elle appelle les pays de sa zone, elle peut être très risquée, il faut absolument que nous intervenions là-bas. Et alors ils ont 5 jours pour choisir s'ils veulent ou pas. Et comme ils disent, oh, ben, c'est technique, c'est eux qui savent, alors oui. Et donc on a quelque chose de complètement incohérent, puisque ils s'estiment en guerre. Ils ont tout intérêt à convaincre qu'il y a en effet des risques, puisque leur budget dépend du nombre d'opérations qu'ils vont faire pour avoir un budget l'année suivante. Ils ont intérêt à avoir fait beaucoup d'opérations et donc d'avoir un maximum de risques. Et donc, on leur laisse un pouvoir d'initiative et un pouvoir d'auto-évaluation. Parce que l'article 3 du règlement prévoit que l'agence évalue les résultats des opérations conjointes et des projets pilotes et en fait une analyse comparative globale incluse dans le rapport général afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations et projets futurs. Donc on a quelque chose de complètement hallucinant dans lequel l'agence décide, puisqu'elle fait l'analyse de risque et qu'elle prend l'initiative, elle décide du début et elle s'autocontrôle à la fin. Donc en fait, le contrôle politique est totalement absent. Et je vais terminer en vous lisant les paroles qui ont été citées en séance plénière du Parlement européen à Strasbourg et qui n'ont soulevé aucun débat. L'expérience de Frontex doit être soutenue et représente la frontière de la civilisation européenne face à l'attaque de l'immigration illégale. Nous considérons que des mesures comme le CIV, le mur high-tech anti-clandestin, marchent très bien. Ce n'est pas la peine de pleurer sur les morts et sur les cas humanitaires quand nous ne faisons rien pour défendre nos côtes. Alors, c'est la Ligue du Nord, ce n'est pas les plus sympathiques. Mais ce qu'il y a d'horrible, c'est que ça a été dit au cours d'un long débat et qu'il n'y a personne qui a contredit. Donc, se pose la question, et ça c'est une question beaucoup plus large, c'est est-ce qu'une solution militaire à l'immigration est bonne Je crois que non. Une solution militaire ne peut aller que vers de plus en plus de violations des droits de l'homme. Une seule des solutions politiques, sociales et de vrai partage entre le Nord et le Sud peuvent équilibrer les flux migratoires, parce que tant qu'on continue à ne pas vouloir accueillir toute la misère du monde et à s'armer pour repousser toute la misère, tout en accueillant toute la richesse du monde et en continuant à piller le tiers-monde, eh bien, la misère du monde continuera à essayer de venir et viendra de manière de plus en plus agressive. Nous augmenterons l'agression pour les empêcher de venir et cette escalade ne peut aller que vers une situation catastrophique.
Voilà, c'était Selma de Progress Lower Network, il y a un mois, dans une conférence à propos de Frontex, le dispositif de militarisation des frontières européennes. On avait un peu d'appréhension et de mal à trouver de la matière sur Frontex, parce que comme l'explique assez bien Selma, je crois, c'est un truc de technicien et dont personne ne veut vraiment avoir la responsabilité, qui est justifié par toute une logique. On aura certainement l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions. En tout cas, cette intervention de Selma, on la mettra en podcast sur le site de Radio Panique. Et peut-être aussi sur celui du No Border de Bruxelles, puisque cette émission donc avait pour but de vous annoncer l'organisation d'un camp No Border à Bruxelles du 27 septembre au 3 octobre. Et alors maintenant on va parler d'une action contre un des centres fermés dont on a parlé tout à l'heure. C'était le centre fermé de Votem. C'est Hans et Serge qui ont été là-bas, qui vont nous en parler. Et juste avant, on va écouter une petite chanson qui s'est chantée là-bas.
C'est un petit pays, cosy, 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 on n'y manque de rien. Le soleil connaît bien, 11 ans déjà et je ne m'habitue pas. Je ne m'habituerai jamais. Ça fait tourner l'argent, ça maintient les filières. 11 ans déjà et je ne m'habitue pas. Je ne m'habituerai jamais. Je ne m'habitue pas. Il y a fermé, mais dans tout ce du temps, dans les centres fermés. 11 ans déjà et je ne m'habitue pas. Je ne m'habituerai jamais. Je ne chassez aujourd'hui et reviendront demain. Engentillés par l'office, arrosés par la police, nous aussi on leur reprendra le chemin. Avant d'arriver là, ils ont payé très cher, ils ont souffert déjà, dans leur cœur, dans leur chair. 11 ans déjà et je ne m'habitue pas, je ne m'habituerai jamais. On se bouche le nez, on les renvoie chez eux, quitte à les condamner. 11 ans déjà et je ne m'habitue pas, je ne m'habituerai jamais, je ne m'habituerai jamais. Asphyxiés dans les camions, ou séquestrés en prison, chassés aujourd'hui, reviendront demain. Engentillés par l'office, arrosés par la police, nous aussi on leur reprendra le chemin. C'est de la sorte qu'on que la prison et le courant, on devient fou, innocent derrière la peau. Jamais. C'est inhumain, c'est con et c'est dangereux.
15 ans déjà et je ne m'habitue pas. Je ne m'habituerai jamais. On fera une école et un terrain de jeu. Quelques réserves folles, un local pour les vieux. 11 ans déjà et je ne m'habitue pas. Je ne m'habituerai jamais. Je ne m'habituerai jamais.
C'est une chanson qu'on a enregistrée pendant la manifestation de bruit, comment on appelle ça, Lloyd's Demo.
Bruyante, oui.
Manifestation bruyante, voilà. À Votem, il y a quelques semaines, pour le 11e anniversaire du centre fermé de Votem. Il y avait moins de monde que avant, il faut dire, avec les années. Il y avait quelques centaines de personnes quand même, mais c'était pas comme la grande manif de 5000 qu'on a connue. Ça commençait à Place Saint-Lambert. Et puis, c'était toute une marche en dessous de la drache. C'était incroyable, jusqu'au centre fermé. Où les gens, ils ont essayé de faire un maximum de bruit, en fait, en tapant sur les portes, etc. Et puis, il y avait aussi quelques migrants qui étaient à l'intérieur, qui ont répondu.
Quand on est arrivé là, donc les gens ont commencé à taper sur la porte pour ameuter les migrants qui se trouvaient à l'intérieur du camp. On n'a pas eu de visu réellement parce qu'ils étaient donc dans des centres complètement fermés. Ils n'ont pas pu sortir. On n'a pas eu à part des visus de loin avec des draps qu'ils agitaient pour montrer qu'ils étaient là, qu'ils étaient contents de nous voir et tout. Et toute l'après-midi, donc ça a été donc des sons, du bruit, de la musique et des discours. Donc on va entendre un maintenant.
Ok.
Quand le saumon vous dit que la vaudoise est malade, il faut le croire. Car tous deux vivent dans la Meuse et sont des poissons. Parce que moi qui vous parle, j'étais dans cet enfer qui est devant nous, qui est le centre fermé. C'est un lieu d'un endroit, car là-bas nous n'avons pas la possibilité de faire des recours possibles. Et il y a l'oppression, le racisme visible et toutes les vices qui sont contraires à la démocratie. J'y étais et je vous le dis en vérité que c'est une tache noire dans l'histoire de la belle Belgique, ma terre d'accueil. Les Belges sont chauds avec les immigrés, mais la politique est froide avec eux. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement d'agir avec urgence dans le dossier des sans-papiers. Ils sont dans les décombres, les minutes sont à compter, faut les sauver. C'est un véritable Haïti en Belgique et l'urgence s'impose. Dans ce monde où rien n'est donné, le sans-papier doit savoir faire face, sacrifice à sa tâche, ne jamais baisser les bras et garder l'esprit de combativité. Au bout de l'effort et de l'effort persévérant, nous arriverons à retrouver notre dignité perdue. Chaque génération des sans-papiers a le choix entre trahir et accomplir sa mission, qui est celle de trouver sa dignité en tant qu'être humain. Celui qui lutte peut gagner, mais par contre, celui qui ne lutte pas a déjà tout perdu. Pour finir, nous avons le cœur en émoi et le moral criblé de dettes à l'égard des Belges, des comités de soutien qui sont toujours ici. Nous pouvons citer Alexandre du CRACPE, le Relais, le Point d'appui, la FGTB, la CSC, les Femmes Prévoyantes Socialistes, le Point d'appui et autres. Merci beaucoup.
C'était le premier discours, il y en a eu plusieurs. On va vous faire écouter encore un deuxième discours c'est une femme de Somalie qui parle un peu de son parcours en Belgique.
Je m'appelle Fos et je viens de Somalie. J'ai deux enfants qui sont nés ici et je suis en Belgique depuis maintenant 10 ans. Plus de 8 ans, je me suis battue pour avoir à mes papiers. Depuis 16 juillet 2008, j'existe pour la Belgique. J'ai un numéro national et je suis quelqu'un. Pendant toutes ces années, j'ai connu toutes les procédures de régularisation. Première demande et 6 refus. Le Conseil d'État et la modification de loi des changements d'avocat. Un titre de séjour qu'on les donne et qu'on les reprend. Se retrouver sans revenu. 3 ordres de quitter les territoires et pour un pays en guerre et sans gouvernement. Tout cela alors que mes enfants étaient encore petits. Comment répondre à leurs questions? Comment leur expliquer que nous n'avons qu'une droit sur le territoire belge? Malgré tout ça, j'ai dû subir, j'ai gardé ma dignité. C'est la seule chose qu'on a tous nous besoin de lever. Le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui est un message d'espoir et un message de soutien pour tous ceux qui sont ici et ceux qui sont enfermés dans nos centres. Vous n'êtes pas seul. Une procédure de régularisation, c'est une grande tunnel dedans, on ne voit pas la fin. Gardez toujours l'espoir, le courage et la force de lutter. Il ne faut jamais baisser les bras. Grâce à mes amis qui m'ont soutenu pour le besoin de mes enfants, j'ai trouvé la force de continuer à me battre. Je tiens à remercier à mes amis, les assistants sociaux, mon troisième avocat qui est le seul qui a cru en moi, l'école de mes enfants et les gens qui m'ont soutenu par la pétition, les journalistes qui m'ont fait parler de ma...
Voilà, jusqu'ici, le discours de cette femme de Somalie. Donc, il y aura de nouveau une manifestation brillante le samedi qui vient, à Marx Place. Ça commence à
14h. Là, c'est plus à Votem, parce que là, on était à Votem.
C'est ça. Là, on était à Votem. Donc, maintenant, on parle de Marx Place, dans la province d'Anvers, où il y a un autre centre fermé. Et on fait aussi une manifestation brillante. Donc le but, c'est de se faire entendre à l'intérieur, que les gens, ils savent qu'il y a des gens qui sont dehors, qui sont solidaires avec eux, qui leur soutiennent dans leur lutte. Et voilà, il y aura certainement des petites actions, des petites animations, etc. Donc c'est au centre fermé de Merckxplatz à 14h. Pour avoir plus de détails, vous pouvez par exemple regarder sur le site de Indymedia Bruxelles. Donc c'est bxl.indymedia.org. Et là, dans l'agenda, en fait, on a annoncé la manifestation et plus d'explications pour y arriver, etc.
Et puis j'imagine qu'il y aura aussi des explications sur le site du Corn au Border Bruxelles, non ?
Oui, c'est déjà sur le site, je pense.
Alors l'adresse du site du camp, on peut la rappeler, c'est noborder, donc tout attaché, bxl et .eu.org. Si vous voulez en savoir plus sur la tenue de ce camp, éventuellement participer comme nous, on le fait à travers cette émission, pour participer à la préparation du camp, vous pouvez venir à une réunion qu'on va avoir dimanche. Dimanche à 11h, c'est ça ?
C'est à 11h, oui.
Et jusque-là, on la faisait au Piano Fabrique à Bruxelles, mais là, aujourd'hui, on me dit qu'il y a une nouvelle adresse pour les réunions, c'est le 129 avenue Beuyle. Alors, c'est juste à côté de l'Université Libre de Bruxelles. 129 avenue Beuyle, il y a une occupation, on peut dire.
Oui, tout à fait.
C'est une application. Et puis, un des avantages, c'est qu'on peut rencontrer les sans-papiers, là.
Ouais. Et donc, il y aura cette réunion. Participer à la préparation du no-border, ça se fait pour l'instant donc par ces assemblées générales qu'on fait déjà depuis 2-3 mois. On les fait à raison d'une fois par mois. Hein. Et chacun s'est un peu spécialisé dans une branche pour la préparation. On est répartis en groupes. Donc nous, par exemple, on s'est retrouvé dans le groupe média, puis dans le groupe radio. On fait des sous-groupes. Mais il y a plein de groupes. Donc il y a des groupes aussi nécessaires et fondamentaux que la cuisine, pour laquelle on recherche des cuisiniers, des cuisinières et des gens qui voudraient participer à la préparation de la popote pendant le camp. Et préparer ça, évidemment, de savoir comment on va se ravitailler tout ça. Il y a un groupe sur la question juridique qui est souvent assez fondamental aussi dans ces occasions.
Il y a aussi le groupe médical qui recherche aussi encore des personnes.
Ce qu'on peut dire encore, c'est que on est peu à peu en train d'établir un programme pour ce no-border. Un programme d'action, que faire ou manger, que brûler. Mais aussi un groupe, un programme de discussion, de workshop, comme on dit. Donc il y a déjà des thématiques qui ont été établies comme ça sur la semaine. Et si vous voulez participer aussi, parce que vous êtes touché de près ou de loin par la thématique de la libre circulation ou la question de la militarisation des frontières, vous pouvez nous contacter et proposer des choses à ce groupe qui est aussi un groupe à part, mais qui fait la programmation donc de cette semaine du No Border du 27 septembre au 3 octobre.
Le 8 juin, il y a des projections de films sur la place Anne-Essens. C'est un collectif de vidéastes et aussi des gens qui vont projeter des films qui viennent de l'Angleterre et qui vont dans un festival sur la migration en Allemagne et sur le retour, ils passent à Bruxelles. Donc c'est le 8 juin. Je ne connais pas l'heure exacte, mais c'est aussi sur le site.
C'est 20h30, 22h30.
Voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'est un autre événement où on peut se voir, rencontrer des gens et discuter.
Oui.
Et puis, si les gens ne savent pas tous venir donc dans des groupes de travail, il ne faut pas oublier que le 2 octobre, il y aura une grande manifestation aussi. Donc,
Oui, tout à fait. Et aussi dans le lot des choses qu'on prépare, qui se font au fur et à mesure, on prépare aussi des projections qui vont se faire à la salle Le Nova. Et on est en ce moment à la recherche de films touchant de près ou de loin toujours à la thématique de la libre circulation et des frontières. Et si vous connaissez un film que vous aimeriez voir passer dans ce sens-là, dans ce cadre-là, ou si vous avez vous-même réalisé, etc., bah vous pouvez nous contacter à ce propos. Voilà, c'était une première émission Radio No Border pour vous annoncer la tenue d'un camp No Border à Bruxelles du 27 septembre au 3 octobre 2010. Toutes les informations qui concernent ce camp se trouvent sur le site noborderbxl.eu.org. À bientôt.
Zaferlere koş vakariye borcumuz Dünyayı yürütmek artık yetmez Bize yeni cepheler versen paşa Şahin kadar güçlüyüm tek başıma Tahrip edeceğim düşmanları koyarım sıraya Dikkat nişan al ateş Bu sana ilk şahim olsun içimdeki kalle Şahin kareleri deldi kahramanca Şahin kinelerde saltanatı yendi Şahin namert koksun onda Şahin nefretimle geri geldi Şahin kareleri deldi kahramanca Şahin Sayım 1453 1 artı 4 artı 5 artı 3 13 Usuz sayan batılılara Osmanlılar şahit Usuz
Bir dört beş anım 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 b